l'acte permanente de sécurité et de stabilité à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières.
Merci beaucoup Yacouba. À présent, nos invités pour débattre de tout cela. À N'Djamena, nous avons Armand Ndiagoltar, président du comité technique du COTNI, le comité d'organisation du dialogue national inclusif. À Kinshasa, Dani Aïda, directeur pays du NDI, le National Democratic Institute en RDC, chargé des programmes d'Afrique centrale. Et à Winnipeg, au Canada, Raymond Garboui, cadre du parti et membre de l'équipe centrale des transformateurs. Je vais démarrer avec vous, Armand Ndiagoltar. Le président de transition avait promis de rendre le pouvoir au bout de 18 mois. Comment le dialogue national a abouti à la décision de prolonger de 2 ans cette transition?
D'abord, bonjour à tous ceux qui nous suivent et merci encore pour l'opportunité. Vous vous souviendrez que les 18 mois avaient un cahier de charges. Le cahier de charges qui était prévu pour pouvoir donc aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. C'est un cahier de charges qui passe par donc la mise en place, sinon l'organisation d'un dialogue national inclusif, au terme duquel donc une feuille de route devrait, de manière consensuelle, être adoptée et mise en œuvre. Pratiquement, l'organisation des pré-dialogues, l'organisation des pré-dialogues au niveau intérieur comme au niveau extérieur, a pris le temps que les uns et les autres ont suivi. Le comité d'organisation du dialogue a été mis en place en juillet 2021 et pratiquement c'est vers décembre que nous avons démarré les pré-dialogues. Mais en même temps, il faut se dire que le côté politico-militaire a pris 5 mois parce qu'il fallait absolument arriver à des conclusions, sachant que le principe phare de ce dialogue était l'inclusivité. Donc, nous nous sommes rendus compte que pour arriver au dialogue, nous avons finalement épuisé ce temps. Mais c'est important de dire que ce temps n'a pas été perdu. Ce temps a été mis à contribution pour trouver une base consensuelle afin d'avancer ensemble. Mmh. Et aujourd'hui, même si au terme de 18 mois, on n'a pas encore amorcé le retour à l'ordre constitutionnel, on a au moins un outil qui permet de pouvoir avancer vers le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire qu'on a balisé le chemin en s'asseyant ensemble autour d'une table, quoique ce n'est peut-être pas tout le temps qu'il fallait. Mais alors, il faut dire que les éléments qui constituaient donc les 18 mois de cette première tranche de la transition ont pris le temps qu'il fallait et on ne pouvait pas faire autrement que de pouvoir se plier devant l'impératif du temps.
D'accord. Alors, Raymond, c'est un argument que vous acceptez. L'opposition dit craindre que cette décision de permettre au général Mamadou Déby de se présenter n'aboutisse à une succession dynastique du pouvoir. Pourquoi cette disposition pose problème?
D'abord, merci au nom du Parti des Transformateurs à l'équipe La Voix de l'Amérique pour l'occasion. Et je voudrais, avant tout propos, adresser mes compassions, adresser les compassions de mon parti, les transformateurs, aux compatriotes, aux concitoyens tchadiens sinistrés par les inondations et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'eau sans de l'aide. Bon, par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense que tout a été mise en place pour un effet de ce dialogue qui est de nom, qui pour nous est un monologue. Parce que quand M. Armand disait tout à l'heure le temps qu'il fallait, bon, tout ce temps qu'il fallait et d'énormes ressources financières qui avaient été gaspillées pour un pré-dialogue qui devrait durer 1 mois, et c'était parti finalement pour plus de 6 mois ou bien une demi-année. Et avec, pour finir, la signature des accords par certains groupes politico-armés, dont la majorité fait partie de N'Djamena, vous voyez. Et les facteurs, les éléments déclencheurs de ce dialogue, ou bien de la disparition du maréchal Déby à son âme, plus les manifestations, les marches organisées par le parti, les transformateurs et leurs alliés comme les Wakistama, les syndicats et autres, les autres sociétés civiles sur place à N'Djamena, et puis l'assaut du FAC, cette branche armée très très efficace sur le terrain, qui a dû contraindre aussi d'une manière ou d'une autre la tenue de ce monodialogue. Ces deux éléments-là n'ont pas été pris en compte, ces deux facteurs majeurs n'ont pas été inclus dans ce dialogue, pour une raison ou pour une autre. Et aujourd'hui, on arrive à des accords, des pré-accords qui n'ont pas servi à grand-chose, et voilà pourquoi on arrive à un monodialogue qui est une montagne qui a coûté une souris.
Alors, Dany Aïda, je dois signaler que vous avez passé une semaine à N'Djamena pour participer un peu à la fin des travaux de ce dialogue national. Et lors de la prestation de serment du président de transition, on a constaté aussi la présence de représentants de pays de la région et de l'Union européenne. Est-ce que la communauté internationale n'est pas en train de valider un principe qu'elle rejette ailleurs, en acceptant qu'un militaire dirigeant une transition se présente à une élection?
Je pense que la communauté internationale mesure la fragilité de la situation au Tchad et s'érige un peu en position d'observateur de déroulement de cette transition, y compris de la période de dialogue qui vient de se dérouler. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre d'acteurs, aussi bien la classe politique que les représentants de cette communauté internationale, qui nous disent qu'ils observent. Et nous-mêmes, on a eu aussi nos partenaires dans le pays, y compris des acteurs de la société civile et ceux des partis politiques. Certains ont participé au processus de dialogue, d'autres ne l'ont pas fait. Donc, je pense que la communauté internationale est arrivée à un tournant où il y a de certainement, au regard de l'évolution de la situation, de se prononcer clairement et, en termes d'accompagnement de la transition, de s'affirmer en démontrant aussi qu'il y a un accompagnement possible et en mesurant, en évaluant ce qui peut être considéré comme acquis par rapport à ce dialogue-là et qui a connu pas mal de limites, il faut l'avouer. Les désaccords persistent entre les acteurs de la classe politique. On annonce aussi un gouvernement de transition, un nouveau Premier ministre vient d'être nommé. Je crois que, aussi bien l'accord de Doha n'a pas été assez unanime, le dialogue a généré aussi des résultats que certains acteurs ne partagent pas. À notre avis, il y a lieu de persévérer. Le dialogue inter-tchadien a atteint des résultats qui ne sont pas suffisants et il y a des choses à faire pour réunir les Tchadiens autour d'une feuille de route plus inclusive vers une transition et des élections qui vont ramener le Tchad sur le droit chemin sur le plan de la gouvernance démocratique.
Armand Diagoltar, c'est l'ancien opposant, justement, comme le disait Dany, Saleh Kebzabo, qui a été nommé Premier ministre pour cette nouvelle phase de la transition. Pourquoi, selon vous, il est le profil idéal pour ce gouvernement d'union nationale qui va diriger le pays pour les 24 prochains mois?
Écoutez, la particularité de ce dialogue, c'est que quatre générations se sont retrouvées autour de la table. Il y a la génération des années 60, vous avez la génération des années 90, vous avez la génération des années 2000 et vous avez la jeune génération. Alors, dans la mise en œuvre, je crois que ce choix est un choix de sagesse, un choix aussi d'apaisement, parce que M. Saleh Kebzabo, jusque-là, a toujours fait...
Il a quand même cheminé avec Idriss Déby, oui, même s'il a été dans l'opposition aussi.
Depuis la mort du maréchal, il a joué un rôle très capital dans le processus de préparation de ce dialogue. Il a aussi joué un rôle très capital dans le pré-dialogue de Doha. Et c'est important qu'il puisse donc coordonner la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette phase, parce qu'il connaît en même temps aussi l'opposition, il connaît aussi la classe politique, qu'elle est variée, il est aussi quelqu'un qui écoute la génération, et nous croyons que avec les apports des uns et des autres, c'est un exercice de coordination.
D'accord.
Et permettez-moi de tenir à quelque chose d'important.
Rapidement, s'il vous plaît.
Nous ne pouvons pas sous-estimer un groupe politico-militaire, même si ce groupe, comme on le dit souvent, est venu de N'Djamena ou est venu de quelque part. Quand une question de paix est évoquée, même un seul individu armé qui se déclare dans une posture de rébellion est une menace pour la paix et la quiétude d'une nation.
D'accord. Donc, alors, Raymond, nous sommes obligés d'aller un peu vite avant la pause. Raymond, oui. Que pensez-vous de la nomination de Saleh Kebzabo comme premier ministre? Est-ce qu'il est l'homme qu'on soutient oui. qu'il faut?
Ah, pour nous, au niveau de les transformateurs, la nomination de M. Saleh Kebzabo, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Hein. M. Saleh Kebzabo était dans l'opposition, était avec les associations civiles comme Wakitama, les partis politiques et tout ça qui contestaient la préparation de cette dynastie. Prôné par ce qu'on a vu comme investiture, comme intronisation la semaine passée. Donc, M. Kebzabo a quitté ce groupe-là pour rejoindre le pouvoir de la jeune. Et depuis lors, il a œuvré, il a toujours œuvré pour que tout ce qui était en train d'être préparé soit arriver à bon terme. Et aujourd'hui, pour nous, c'est comme, on voit, c'est comme une récompense parce qu'il faut se rappeler, M. Kebzabo a été le ministre, l'un des ministres des Affaires étrangères de Déby Père.
D'accord.
Et aujourd'hui, nous sommes, nous sommes toujours dans le même processus de la prolongation de la dynastie Déby ou bien Débien ou bien Itno.
D'accord. Alors. Dany, rapidement, vous avez rencontré durant votre séjour tous les acteurs, beaucoup d'acteurs religieux de la société civile. Vous pensez qu'il est encore possible de rapprocher les positions et arriver à un consensus malgré la fin du dialogue?
Je pense que cela est possible. Quand on écoute nos frères et partenaires tchadiens, on sent que qu'ils soient du côté de ceux qui dirigent ou de ce côté de l'opposition, tout le monde considère que cette transition est une opportunité à saisir. Tout le monde craint que quand on n'arrive pas à un compromis vers des réformes réalistes, vers aussi la satisfaction des sommes déshydratées de la population, ils craignent l'avenir. Donc ce qui fait que nous pensons que le cadre de l'après-dialogue, cette phase 2 de la transition, doit pouvoir permettre aux protagonistes de se parler réellement. Le dialogue est une étape, elle n'est pas suffisante. Les réformes à entreprendre méritent d'être inclusives, d'être consensuelles. Et il serait bon que le président de la transition, comme le premier ministre, comprenne cela et ouvre la voie vers des discussions sérieuses avec la classe politique, la société civile et les politico-militaires qui n'adhèrent pas à l'accord aux actes actuels.
D'accord, alors nous allons aller rapidement aux commentaires Facebook laissés sur la page de voafrique.com. Archiduc Théodore Ndjamena nous dit que la prolongation de cette transition au Tchad était un projet mûri avant le dialogue national qui a juste servi de cérémonie de confirmation. Les chantiers du gouvernement d'Union nationale doivent être axés sur la lutte contre l'injustice, l'inégalité, le chômage, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, l'insécurité, etc. Souni Mahamad Noukour Ndjamena écrit, nous demandons au président de tout faire pour ramener le rebelle du FACT et du CCMSR et de libérer les prisonniers de guerre. Aux transformateurs et à Wakitama, nous leur demandons de rejoindre la majorité et de profiter de la main tendue du chef de l'État. Enfin, Hassan Boulalé à Djibouti nous dit que le dialogue était un moyen pour légitimer le pouvoir de Déby fils. Mahamad Déby doit gouverner autrement. Sans des institutions fortes et une diplomatie mûre, il n'y a pas d'alternance politique ni respect du peuple. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
Se raconte et se rencontre. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
We'll be right back.
Geoffrey avec Roger et Jenny. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à N'Djamena, Armand Diagoltar, président du comité technique du CODNI, le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Dani Aïda est à Kinshasa, il est directeur pays du NDI, le National Democratic Institute en RDC. Il est chargé des programmes d'Afrique centrale. Et à Winnipeg, au Canada, Raymond Garboui, cadre du parti et membre de l'équipe centrale des Transformateurs, parti d'opposition au Tchad. Alors, Armand, la question de la forme de l'État n'a pas pu trouver, en tout cas, une solution définitive lors de ce dialogue national inclusif. Quels seront les principaux points inscrits dans ce référendum constitutionnel? Est-ce que cette question de la forme de l'État pourra enfin être vidée?
Bien, la forme de l'État a été réellement le sujet qui a, encore une fois de plus, fait prévaloir le besoin du consensus. Il y avait manifestement dans la salle une bonne majorité qui était pour l'État unitaire. Cependant, il y avait aussi une portion des participants qui étaient pour la fédération et pour ne pas frustrer et pour ne pas créer de dissensions, parce que le but de l'exercice, c'est de pouvoir aller dans l'apaisement, dans le consensus, et de pouvoir se persuader. Alors, je crois que les assises ont permis de se donner le temps et de se dire, allons-y à un référendum. Et à ce référendum, d'ailleurs, il y avait eu d'abord une proposition de faire deux référendums, un référendum sur la forme de l'État, un autre référendum sur l'adoption de la Constitution.
D'accord.
Mais, présent dans les discussions, le consensus est de pouvoir en faire les deux en un seul référendum, donc de pouvoir mettre certainement deux projets, un projet qui a une forme sur l'État fédéral, un autre projet qui va avoir une forme sur l'État décentralisé, et disons donc de pouvoir laisser au peuple de pouvoir en décider.
D'accord.
Alors je crois que ce temps nous permettra certainement aussi de continuer encore à discuter, mais je veux vraiment reconnaître ici l'excellence de la valeur ou les vertus du consensus. Et je crois que si au préalable, avant le dialogue, on avait parlé donc d'un processus inclusif, en termes de résultats, ça c'est un élément qui montre que l'inclusivité du processus a amené à l'inclusivité du résultat.
D'accord. Alors Raymond, certes votre parti n'a pas participé au dialogue national, mais est-ce que vous comptez battre campagne, mobiliser pour ce référendum, donner votre point de vue ou un mot d'ordre à vos militants?
Oui,
notamment sur cette question de la forme de l'État.
Oui, malheureusement, on a compris que pendant les discussions, au cours du monologue, la plupart des interventions qu'on a suivies étaient pour un État fédéral, pour la forme fédérale de l'État tchadien. Et on a vu aussi qu'il y avait eu des lobbies qui étaient visibles dans la salle, qui avaient causé des frustrations et tout ça quant à la décision finale de renvoyer cette décision à un référendum qui devait trancher. Or, parlant du référendum, nous savons que les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Et ceux qui vont organiser ce référendum sont ceux-là qui ont organisé le monologue. Et c'est eux qui sont à la manette, qui sont à la manette aujourd'hui. Peut-être vous n'êtes pas au courant, je vais vous faire une confidence. Celui qui a été imposé à la tête du présidium de ce monologue-là fut récompensé dès le lendemain de la clôture de cet événement par un poste juteux. Secrétaire général,
vous pouvez répondre à la question, est-ce que les transformateurs vont battre campagne ou non?
Oui, donc c'est ceux-là qui vont organiser. Alors, même si on passe pour battre campagne, ça veut dire que les résultats seront toujours connus d'avance. Tout sera mis en place pour permettre à ce que la forme de l'État inventée, c'est-à-dire un État fortement décentralisé, qu'on a inventé au Tchad là, sera adopté au référendum.
D'accord.
Donc, alors, on plaide à ce que des changements aient lieu, comme vous l'avez dit, comme notre collègue, le panéliste, a dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait des discussions sincères. Il faudrait qu'il y ait des changements. Parce qu'il ne faut pas toujours que ce soit du débit face au débit.
D'accord. Alors, Dany, comment faire, vous pouvez aussi réagir sur cette question de la forme de l'État, mais comment faire pour que les militaires, en général, pas seulement au Tchad, restent en dehors du champ politique? Qu'espérez-vous voir dans la prochaine constitution tchadienne, par exemple, qui va être soumise à référendum?
Je commence par la forme de l'État. Les partenaires tchadiens font bien d'en parler. Au-delà d'une question de gestion publique, d'aménagement du territoire, il faut avouer que c'est après des décennies de crise que le débat qui a eu lieu largement pendant le pré-dialogue et qui se poursuit et qui va avoir une prolongation avec ce référendum a été posé. Donc, en réalité, au-delà d'un État fédéral ou d'un État unitaire fortement décentralisé, qui sont les deux facteurs, c'est la question de la gouvernance démocratique au Tchad qui se pose aujourd'hui. Maintenant, quel rôle pour les militaires? Je crois que dans toute démocratie, les militaires ont à défendre le territoire. Ils n'ont pas de place en politique, les militaires. Il faut s'attendre à ce que, dans les réformes qui seront engagées au Tchad dans les prochains mois, on puisse réformer cette armée. Il faut engager un processus pour que la gouvernance du secteur de la sécurité puisse repositionner l'armée dans son rôle régalien. Laisser les civils gouverner, éviter des ingérences et en même temps éviter aussi que des civils ne prennent des armes s'ils veulent accéder au pouvoir. C'est toutes ces questions que le Tchad doit avoir le courage de régler durablement et non juste de récompenser certains acteurs et préserver les vrais problèmes qui risquent d'engendrer des séquelles comme on en a connu au cours de ces décennies précédentes.
D'accord, on a deux minutes pour terminer. Je donne une minute à chacun. Armand, par exemple, comment faire pour que les autres sujets comme le développement, l'éducation, la sécurité reste aussi une priorité dans l'agenda de la transition, pas seulement les questions politiques. Armand, une minute.
Oui, en fait, comme vous pouvez le constater, il y a donc un cahier de charges avec quatre axes. Donc un axe qui est orienté vers les questions de paix, de sécurité, de réconciliation. Un second axe qui est orienté sur la question du retour à l'ordre constitutionnel. Un troisième axe qui tient beaucoup plus en ce qui concerne la gouvernance, l'état de droit. Et le quatrième axe parle donc de la relance économique. Donc, les questions ne sont pas du tout occultées. Je voudrais encore une fois de plus rassurer nos compatriotes qui se sont auto-exclus. La participation aux assises était un droit, mais pas un devoir. Donc,
le dialogue va se poursuivre malgré la fin de
reste rapidement. Toujours permanent. Et je crois qu'il est temps de pouvoir donc, n'est-ce pas, s'inscrire dans cette dynamique-là. D'accord. Et de participer à la mise en œuvre, mais aussi la mise en œuvre de toutes les entités qui vont gérer la transition.
D'accord, Raymond, on a pas beaucoup de temps. Raymond, votre réaction sur cette...
Oui, merci beaucoup. Je vais finir en disant qu'il y a encore des possibilités de rattrapage. Il faudrait que les acteurs politico-militaires aujourd'hui au pouvoir se remettent en cause et puis essayer de créer des conditions permettant à tout le monde de revenir à des meilleures discussions pour aboutir à telle chose. Et la communauté internationale, et notamment la France, qui s'est fait garante de cette dynastie, a imposé à beaucoup à jouer dans la situation. Voilà. Ils doivent voir leur profit. Et je crains pour la suite de la situation dans mon pays parce que ça peut dégénérer à tout moment.
Merci.
Avec les Tchadiens tout à fait debout aujourd'hui.
Je retiens que le dialogue peut bel et bien se poursuivre et nous allons suivre ici à Washington, sur Washington Forum, les développements. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités énormément. Également, merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.